Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mardi 23 août 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections étaient désignés hier par tirage au sort. Certains partis politiques dénoncent cette méthode. Ils parlent d'une violation de l'article 7 de la loi électorale. L'Iran souhaite développer des partenariats avec le Mali dans beaucoup de domaines. La déclaration est du ministre iranien des Affaires étrangères en visite au Mali depuis ce lundi. Comment les Ivoiriens résidents à Sikasso vivent la tension diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Beaucoup affirment ne pas être affectés par cette situation. Cependant, ils demandent une solution rapide au problème. Le développement dans quelques instants avec Adama Amadou Haïdara à la mise en onde, nous direz. Les représentants des partis politiques et de la société civile devant siéger au sein de l'autorité indépendante de gestion des élections sont connus depuis ce lundi. Certains partis politiques comme le RPM désapprouvent le mode de désignation de ces représentants. Pour l'ancien parti au pouvoir, cette démarche viole l'article 7 de la loi électorale. Le parti IRD ajoute que les modalités de désignation pourraient susciter des problèmes. Mohamed Babakunta.
L'Union pour la République et la démocratie fait partie des partis politiques dont des membres étaient sur la liste de candidature. Cependant, ce mode de désignation n'a pas été apprécié par ses responsables. Pour Mamadou Diko, cette désignation peut susciter des problèmes.
Le tirage au sort, c'est vraiment une procédure certes juste, mais qui comporte des inconvénients majeurs. Vous savez, on peut tirer au sort quelqu'un qui n'a aucune expérience, aucune expertise, aucune capacité de faire le travail pour lequel il est convié. Je crois qu'on doit davantage introduire notre génie pour pouvoir trouver les moyens les mieux appropriés pour régler ce problème-là.
Des propos soutenus par les partis à rassemblement pour le Mali. Pour ses responsables, les modalités de désignation n'ont pas été respectées. Sekouniame Bakili estime que son regroupement tiendra très prochainement une rencontre pour se situer non seulement sur les modalités de désignation, mais également sur les personnes désignées.
Il est bien indiqué que le collège organe délibérant de l'ES comprend 15 membres, dont 4 désignés par les partis politiques suivant les modalités qui sont fixées par eux-mêmes. Donc l'article est très bien clair. Donc lors de la rencontre du cadre de concertation, il est sorti 5 propositions venant des partis politiques. La proposition majoritaire, c'est la proposition qui est des 60 partis qui ont proposé prendre les 4 représentants parmi les regroupements des partis politiques. À notre grande surprise quand même, nous avons constaté que le ministre a opté pour le tirage au sort. Or, il n'y avait que 5 partis qui avaient proposé ça.
Notons qu'à l'initiative du ministère de l'administration territoriale, un huissier de justice a été chargé d'organiser les tirages au sort. 8 personnes, dont 4 femmes, ont été tirées au sort au niveau des formations politiques. En revanche, 6 personnes ont été choisies au sein de la société civile.
Le mode de désignation par tirage au sort est la solution face au nombre important de partis politiques qui rend le choix difficile. Cette phrase est de l'analyste politique Dr Abdoul Sogodogo. L'universitaire reconnaît que la méthode peut frustrer certaines formations politiques. Toutefois, il affirme qu'à un moment donné, il faut trouver une solution pour avancer dans le processus. Dr Sogodogo est joint ici par Halima Yattara.
Au Mali, on compte plus de 200 partis politiques. Ça rend difficile la construction d'une opinion publique dominante. Et c'est cette diversité de ces partis politiques qui rend aujourd'hui le choix difficile des représentants des partis politiques au sein de l'EJ. Ce mécanisme de tirage fait que les représentants peuvent être des personnes issues de partis dites de partis dominantes ou en tout cas de partis moins représentés. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue juridique, un parti politique reste un parti politique parce que tous ces partis politiques sont constitués conformément à la législation malienne. On doit tenir compte de ce principe d'égalité. Et cela peut être frustrant effectivement pour certains, mais on comprend bien qu'il faut arriver à trouver ces personnes qui doivent représenter les partis politiques. Sinon, le processus va se voir bloqué.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le Mali est ouvert pour que l'Iran fasse des affaires avec les Maliens. La déclaration est d'Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie malienne est recevé ce matin son homologue iranien Hussein Amir Abdollahian en visite de travail à Bamako. Selon le diplomate iranien, son pays souhaite développer des partenariats avec le Mali dans les domaines de la transformation de la viande, du coton, entre autres. Abdoulaye Diop est ici au micro d'Imran Kilmaï.
Ce sont des pays qui veulent travailler pour un développement solidaire. Pour que cela se fasse, on se rend compte que la diplomatie politique n'est pas suffisante. Nous avons besoin d'une diplomatie économique. Nous avons besoin que les chefs d'entreprise soient nos ambassadeurs, qu'ils puissent se connaître, qu'ils puissent travailler ensemble. Je peux rassurer nos frères et sœurs iraniens qui sont là que le Mali veut diversifier ses partenariats. Le Mali n'est la chasse gardée de personne. Nous voulons explorer de nouveaux partenariats. Partenariats politiques, partenariats sécuritaires, mais surtout aussi avoir des partenariats économiques, des partenaires nouveaux. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de travailler pour que la technologie et les connaissances de l'Iran aident à transformer le Mali. Donc le Mali est ouvert pour que l'Iran fasse des affaires avec les Maliens.
Région frontalière de Côte d'Ivoire, Sikasso accueille de nombreux Ivoiriens. Comment ceux-ci vivent la tension diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à Bamako? Beaucoup affirment ne pas être affectés par cette situation, même s'ils souhaitent que les relations de paix et de fraternité qui ont toujours existé entre les deux pays puissent être préservées. Notre correspondant Christian Dakou est allé à leur rencontre.
Koulibaly Lamine et Mme Keïta Moïn-Thérèse sont deux Ivoiriens résidant à Sikasso. Le premier pâtissier de son état vit au Mali depuis 1997, alors que la seconde commerçante est mariée ici depuis deux décennies. Ces Ivoiriens disent être en sécurité au Mali. Pour eux, cette tension n'est que diplomatique.
Aujourd'hui, vraiment, il n'y a rien. On est en sécurité vraiment parfaitement. Parce que je suis marié avec ma femme et mes enfants. Bon, depuis 1997, je suis au Mali. Il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent.
Depuis 2002, je suis au Mali. Je me sens au Mali en sécurité. En tout cas, tout va bien, ça va.
Les deux ressortissants ivoiriens appellent les autorités maliennes et ivoiriennes à rapidement résoudre ce différend. Cela afin de préserver les bonnes relations qui ont toujours existé entre les deux pays.
Le premier président, père de l'indépendance, a souhaité vraiment la paix. Et nous aussi, on veut la paix. Faisons la paix.
Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a jamais eu de palabre. Donc, tous nos souhaits, toutes nos prières ont pris le bon Dieu pour qu'il y ait la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire.
C'est le même appel que lancent de nombreux Ivoiriens rencontrés ici dans la cité du Kélidougou. Il faut rappeler que les négociations entre les autorités maliennes et ivoiriennes se poursuivent malgré l'inculpation des 49 militaires ivoiriens par la justice malienne. De Sikasso, Christian Ismaël Dako pour Studio Tamani.
Et de Sikasso, nous partons dans le nord du pays où la route nationale 16 est bloquée depuis des semaines par des groupes armés. Il s'agit du tronçon Douanzan-Boni-Gao. Cette situation a occasionné un manque de produits de première nécessité et de médicaments dans ces localités. Les populations impactées demandent une intervention des autorités au plus vite. Mariam Koulibaly.
Dans la ville de Douanzan, les produits alimentaires et pétroliers se font rares, selon les explications des ressortissants qui ont requis l'anonymat.
Même à manger est difficile. Imaginez-vous, les dimanches, on égorge plus de trentaine de vaches. Le dimanche passé, on a égorgé qu'une.
Ce blocage a entraîné aussi une rupture des produits pharmaceutiques à Gao. Informé par leur père de Gao, l'ordre des pharmaciens a saisi le ministère de tutelle. À l'heure actuelle, les autorités locales sont informées et des dispositions sont prises, selon Aliou Badrawan, président de l'ordre des pharmaciens.
C'est pour dire que les médicaments qui sont utilisés ne sont pas remplacés. Donc, c'est qu'entraîne fortement une rupture. Nous avons saisi notre ministère de tutelle qui a saisi ce zone, donc chargé de la question. Nous a demandé de Gao de saisir le gouverneur qui va aller faciliter le transport des médicaments par voie aérienne. Donc, ceci a été fait. On attend l'évolution et voir comment cela se passe sur le terrain.
De Douanza, en passant par Boni, Ombori, Gossi et Gao, les populations attendent impatiemment la réaction des autorités face à ce blocage qui coïncide d'ailleurs avec la période de soudure dans le pays.
Info sport dans ce journal préparatif du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Les aigles locaux ont été tenus en échec hier par le CELI local de Guinée, 0-0. C'était au stade Modibo Keïta. La semaine dernière, les hommes de Nuhundjane ont fait une défaite et un match nul contre les Mourabitoun de la Mauritanie. Rappelons que le CHAN est réservé aux joueurs évoluant dans un club de leur pays.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Dans les régions à Massina, une campagne de vaccination contre la COVID-19 a démarré depuis le 17 août 2022 dans le district sanitaire de la localité. Elle concerne les personnes âgées de 18 ans et plus. Selon le médecin-chef de Massina, sur une prévision de 1040 personnes, environ 70% ont été vaccinées. Cette information a été donnée ce lundi lors de la rencontre du comité de pilotage organisé par le service local du développement social et de l'économie solidaire. La campagne prend fin le 27 août prochain. Une dizaine d'ONG humanitaires à travers la Direction régionale du développement social volent au secours des populations de Bourem après les inondations survenues il y a quelques jours. Plusieurs interventions sont en cours, distribution de céréales, de farine et autres kits sanitaires et d'hygiène. Les autorités locales et socio-sanitaires ont apprécié et remercié ce geste hautement humanitaire qui, selon eux, vient soulager la souffrance des populations. À Saint, la dissémination du plan de contingence est le thème d'une formation qui a débuté hier 28 août à Saint. Elle a réuni une cinquantaine de responsables de services, de représentants de la société civile, des forces de sécurité, du développement social et de l'économie solidaire. L'objectif est de renforcer les capacités des participants pour une meilleure coordination des actions afin d'assurer une assistance et une protection adéquate aux personnes affectées par les crises et catastrophes. La rencontre de deux jours est financée par la Croix-Rouge espagnole. Retrouvons maintenant Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Mariam, quel est le thème du Grand Dialogue aujourd'hui?
Comment se portent les relations entre le Mali et ses partenaires? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Boubacar Boukoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. À ses côtés, Cheikh Oumar Koulibaly, troisième vice-président du parti FMR Faso Dambé, et Moussa Nabi Diakité, membre du mouvement politique Génération Engagée.
Merci Mariam, bon débat et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la question A. La question A du jour s'intéresse aux injures sur les réseaux sociaux, une pratique punie par la loi du 5 décembre 2019 sur la cybercriminalité au Mali. Pourtant, il n'est pas rare de voir des personnes proférer des injures graves sur les réseaux sociaux via des vidéos. Si des personnes ont déjà été interpellées ici au Mali, seuls les résidents hors du pays n'ont jamais été inquiétés. Selon le parquet de la commune 4, il est difficile d'interpeller ces personnes faute d'adresse fixe. Mamadi Tunkara est magistrat, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de la commune 4 de Bamako. Il répond ici aux questions de Fatoumata Kodjo.
La loi portant répression de la cybercriminalité, en son article 21, prend en compte les injures. L'article 21 dit ceci: quiconque profère des injures par le biais d'un système informatique envers une personne est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 1 million de francs CFA à 10 millions de francs CFA ou de l'une des deux peines seulement. Cela veut dire que toute personne qui commet des injures sur les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, TikTok et autres, peut être poursuivie soit par le procureur de la République ou encore par la victime ou encore par la personne qui a été victime d'injures. Et s'il est reconnu coupable, il encourt la peine suivante et peut être condamné.
Lorsque ces personnes ne résident pas au Mali, est-ce qu'on a la possibilité de porter plainte?
Naturellement, chaque fois qu'on est victime d'injures et autres, la personne lésée vient porter plainte devant le procureur de la République contre telle personne pour des faits d'injures commises sur le biais d'un système informatique. Lorsque maintenant la personne ne réside pas au Mali, comme généralement c'est le cas des vidomans, la plainte est mise en stand-by. Mais dès lors que la personne vient au Mali, la plainte est activée. Il sera interpellé directement et convoqué, donc entendu sur la dite plainte. Et je pense que des vidomans, plusieurs vidomans, ont fait l'objet d'interpellation par rapport aux injures commises sur les réseaux sociaux.
Est-ce qu'il y a une convention entre le Mali et ces pays pour que s'il y a plainte, on puisse les faire rapatrier, comme il y a le mandat d'arrêt international? Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. Mais le problème est que généralement, la plupart de ces vidomans-là n'ont pas d'adresse fixe dans les pays où ils résident. Donc, faute d'adresse fixe, on ne peut pas les rechercher, comme on le dit, qui n'a pas de référence, qui n'est pas répertorié dans les fichiers de son pays où il réside, il est difficile de lancer un mandat contre lui. C'est un peu la difficulté.
À ce jour, est-ce qu'il y a eu des plaintes contre les personnes qui ont fait des injures et qui sont à l'extérieur?
Oui, il y a beaucoup de plaintes contre eux. Mais comme je l'ai dit, nous avons des difficultés à les retrouver parce que généralement, ils sont sans domicile fixe. Dans la dite plainte, il faut déterminer son identité complète, son quartier, si possible, le numéro de la rue, le numéro de la porte et le numéro de téléphone. Ça facilite la recherche aux enquêteurs. Mais étant donné qu'ils ne sont pas là, donc ils ne sont pas faciles à identifier à l'extérieur.